France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Ne lui dites surtout pas qu'il est un philosophe du bonheur. Ça pourrait l'affliger, voire l'agacer. Et pourtant, il est ce matin l'invité de Grand Main vous fasse pour évoquer sa conception du bonheur, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. C'est l'occasion surtout de s'intéresser à une notion qui l'intéresse, la sagesse tragique, un apparent oxymore fort utile pour traverser les turbulences anxiogènes de notre temps. En compagnie du philosophe André Comte-Sponville, nous évoquerons également la question de la mort et du suicide qui ouvre son nouveau livre. André Comte-Sponville attend toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Où donc est le bonheur, disais-je ? Infortuné. Le bonheur, oh mon Dieu, vous me l'avez donné. Naître et ne pas savoir que l'enfance éphémère, ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère, est l'âge du bonheur et le plus beau moment que l'homme, ombre qui passe, ait sous le firmament. Plus tard, aimer. Garder dans son cœur de jeune homme un nom mystérieux que jamais on ne nomme, glisser un mot furtif dans une tendre main, inspirer aux douceurs d'un ineffable hymen. Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole. Sentir son cœur se fondre au son d'une parole.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Que vous inspirent ces vers de Victor Hugo ? Où est donc le bonheur lu par Michel Bouquet ?
Ça m'inspire d'abord de l'admiration. À chaque fois qu'on redécouvre Victor Hugo, moi j'ai toujours frappé par l'immense génie de cet homme et puis sa générosité. Vous savez, un jour on demandait à André Gide quel était le plus grand poète français. Et Gide, que j'aime beaucoup par ailleurs, a répondu un peu sottement « Victor Hugo, hélas ». Et moi je dis « Victor Hugo, heureusement », parce que le plus grand poète français est aussi le plus généreux, le plus humaniste, le plus progressiste, et c'est une grande chance pour nous. Cela dit, quand il dit que l'enfance c'est l'âge du bonheur, si j'ai bien compris cet extrait, moi c'est pas ce que j'ai vécu. C'est pas ce que j'ai vécu, je suis bien plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais enfant. Et il m'arrive de penser, et peut-être ça dit quelque chose aussi de Victor Hugo, il m'arrive de penser que les gens qui ont eu une enfance heureuse, il leur manque toujours quelque chose. Et je pense que Victor Hugo est un génie immense, c'est le plus grand écrivain français, mais il m'arrive de penser qu'il lui manque en effet quelque chose, qui est peut-être l'expérience précoce du malheur, un fond de gravité, moi ce que j'appellerais un fond de désespoir, qu'il s'agit de transformer après, si l'on peut, en bonheur, en amour de la vie, bien sûr, mais moi, c'est ça mon point de départ. Ouais, mais c'est tout aussi simplement que je ne suis pas Victor Hugo.
André Comte-Sponville, vous êtes donc philosophe normalien, une figure majeure de la philosophie contemporaine. Les Cahiers de Lerne vous ont consacré un volume. On vous doit le petit traité des grandes vertus, l'amour, la solitude, ou encore un dictionnaire amoureux de Montaigne. Et vous venez donc de publier au PUF l'opportunité de vivre, ultimes études. Et je me suis dit que vous alliez refuser cette émission, que vous alliez refuser l'invitation car vous détestez que l'on vous affuble de l'étiquette de philosophe du bonheur. C'est un sujet qui vous lasse, André Comte-Sponville. Expliquez-nous ce malentendu.
Ça m'agace, disons que c'est réducteur d'abord. Hein. Vous savez, moi j'ai publié une trentaine de livres, il n'y en a qu'un qui porte sur le bonheur, c'est le plus court, le bonheur désespérément, l'un des plus faciles. Alors peut-être que c'est ce qui explique que les journalistes l'aient lu davantage que les autres. Mais cela dit, oui, le bonheur est un problème philosophique aussi. Mais comme la mort, comme le suicide, d'évoquer le premier article de ce recueil qui porte en effet sur le suicide, me définir comme philosophe du bonheur, c'est aussi réducteur que me définir comme philosophe du suicide, si vous voulez. C'est un sujet philosophique parmi d'autres. Voilà.
Et ce qui compte pour pour vous avant même le bonheur, peut-être. C'est l'amour, l'action, vos enfants, votre travail, vos amis, la liberté, la vérité, la spiritualité. Et le bonheur viendra peut-être en plus. Et ce n'est peut-être pas sûr. Avec un peu de chance, il viendra peut-être, ce bonheur.
Oui, mais d'autant plus que pas besoin d'être philosophe pour chercher le bonheur. Tout le monde préfère être heureux plutôt que malheureux. Alors, tous les philosophes s'accordent à dire, depuis les philosophes et les penseurs, depuis Platon jusqu'à Freud et au-delà, que tous les êtres humains cherchent le bonheur. Donc ça n'a rien de proprement philosophique. Ce qu'il y a de proprement philosophique, c'est de chercher le bonheur dans la vérité, comme disait saint Augustin. Alors, le peu de vérité auquel on a accès, mais on a accès à assez de vérité malgré tout pour distinguer clairement la sincérité du mensonge, la lucidité de l'illusion. Donc ce qui fait le pari philosophique, c'est pas la quête du bonheur, c'est la quête de la vérité. Et j'ai souvent dit que mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Alors, autrement dit, si les philosophes ont le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mais une fois qu'on est face au peu de vérité auquel on accède, bah comme tout le monde, le philosophe, il préfère être heureux plutôt que malheureux. Et donc la question de savoir comment faire pour être à peu près heureux, c'est-à-dire heureux, face à la vérité. Et c'est là où on retrouve la notion de tragique. Je suis venu ce matin à la maison de la radio, je suis descendu au Champ de Mars, et donc j'ai traversé la Seine par, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pont. Matin d'hiver, lumineux, bleu, merveilleux. Paris est la plus belle ville du monde, avec cette lumière hivernale, c'était le sentiment que j'avais. Et puis je vais vers la maison de la radio et je croise une femme couchée par terre sur une bouche d'aération couverte de vieilles couvertures. C'est ça le tragique, c'est qu'on vit une matinée merveilleuse, on se dit mais que c'est beau Paris, que c'est beau une belle matinée d'hiver, que c'est beau d'être vivant. Et puis on est confronté au malheur, à l'injustice, à l'horreur. Voilà. Et le tragique, c'est ça. Et donc, à la limite, je préfère qu'on me définisse comme philosophe tragique en ce sens-là. Alors, c'est quoi le tragique ? Nietzsche explique que le tragique, c'est prendre le réel tel qu'il est dans son entier. Le beau et le laid, le gai et le triste,
tout accepté.
Le bonheur et le malheur. Autrement dit, le réel, ce n'est pas un supermarché où on pourrait choisir les produits qu'on cherche. Non, le réel, il est à prendre ou à laisser. Et le pari de la philosophie, bah, c'est de le prendre tout entier.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre maison et ami d'André Comte-Sponville. Il sera question de lui dans vos choses vues. En arrivant au bureau ce matin, vous m'avez dit spontanément que nous recevions ce matin le plus grand philosophe vivant français.
Ah oui, ah oui, oui, c'est mon avis. Mais alors, c'est pas seulement parce qu'André est mon ami, que je l'admire, etc. Mais je trouve que qu'André Comte-Sponville cumule trois caractéristiques qui font, à mes yeux, les grands philosophes. D'abord, la profondeur de la réflexion, de la pensée. Ensuite, la clarté de l'expression, parce qu'à quoi bon, finalement, que quelqu'un ait une réflexion profonde s'il ne sait pas la transmettre avec clarté, avec concision. Et l'intérêt qu'il a pour le quotidien, pour la vie humaine. C'est-à-dire, André s'intéresse à l'éducation, il s'intéresse à la politique, il s'intéresse au capitalisme, il s'intéresse aux relations entre les humains, à l'amour. Et voilà, c'est pas un philosophe qui est dans sa tour d'ivoire. Donc voilà, ces trois points, profondeur de la réflexion, clarté de l'expression et intérêt pour les humains et leur manière de se dépatouiller avec l'existence.
Ça vous laisse sans voix, André Comte.
Oui, là, j'ai pas de commentaire à faire, sauf pour constater que Christophe est, comme d'habitude, trop généreux. Mais enfin, je l'en remercie quand même.
Alors, je vais me cacher derrière le grand philosophe des Lumières, Kant, pour vous demander quelle est votre définition du bonheur. Pour Kant, c'est un idéal de l'imagination, non de la raison. Pour bien définir le bonheur, pour vous, André Comte-Sponville, il faut le définir négativement, par ce qu'il n'est pas.
Oui, parce que la question « qu'est-ce que le bonheur ?», qui est une question que tout le monde se pose, est une question plus difficile qu'on ne pourrait le croire, parce que justement, comme dit Kant, en effet, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Alors moi, je vais vous proposer une définition du bonheur, je crois qu'on a déjà parlé il y a quelques années ici même, mais avant de dire ce qu'est le bonheur, commençons par dire ce qu'il n'est pas. Premier point, le bonheur, ça n'est évidemment pas la satisfaction de tous nos désirs. que j'appelle la plénitude ou la satiété, parce que c'est impossible. Nos désirs sont ouverts à l'infini, notre vie est vouée à la finitude, donc par définition, il y aura toujours de l'insatisfaction. Donc le bonheur, ça n'est pas la plénitude, ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Ça n'est pas non plus une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Mais la félicité, bien sûr, ça n'existe pas, en tout cas pas sur Terre. Au paradis, pour ceux qui y croient peut-être, mais sur Terre, c'est exclu. Alors si le bonheur n'est ni la plénitude, ni la félicité,
ni la béatitude. Qu'est-ce
que c'est ? La réponse que je propose, qui va vous paraître sans doute décevante au premier regard, mais je crois en vérité très éclairante, ma réponse est de dire que le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. Moi, je réponds, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est, idéal de l'imagination. Mais le malheur, on sait ce que c'est. Du moins, plusieurs parmi nous le savent, parce qu'on l'a vécu. Le malheur, ce n'est pas un idéal de l'imagination. Ce n'est même pas un idéal du tout. C'est une expérience. On l'a vécu ou pas. Il se trouve que moi, je l'ai vécu. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour comprendre ce qu'est le malheur et par différence, pour pouvoir définir ce qu'est le bonheur. Puisque par hypothèse, le bonheur, c'est le contraire du malheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours ou les semaines qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. Toute joie vous paraît impossible, c'est ce que j'appelle le malheur. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Ben, si le malheur, c'est tout laps de temps où toute joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, ne rêvons pas, ça c'est la félicité, ça n'existe pas, mais immédiatement et continuellement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin, la joie est là où elle n'y est pas. Moi, je l'ai dit souvent, pour moi, le matin, il y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs moments, parce que là, ça peut durer des mois ou des années, où la joie vous paraît continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Alors, des fois, mes collègues plus d'offres me disent, c'est pas le sens ordinaire du mot. C'est vrai que dans le dictionnaire, on définit le bonheur comme étant un état de complète satisfaction. Et en même temps, quand on demande aux Français, comme dans les autres pays, « Êtes-vous heureux ?», 80% des Français répondent oui. Qui peut croire que 80% des Français sont pleinement satisfaits ? Pourrait tout ignorer de la France et des Français. Simplement, on demande aux gens « Êtes-vous heureux ?» Leur première réaction, c'est de se dire « Au fond, je ne suis pas malheureux. » Et puisque je ne suis pas malheureux, c'est donc que je suis heureux. Eh bien, de mon point de vue là, il y a une grande sagesse pratique. C'est-à-dire que plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, vous savez, cette belle formule de Flaubert dans une lettre à je ne sais plus qui.
Alfred Le Poitevin.
Ce redoutable petit mot « bonheur » qui fit couler tant de larmes. Les gens se disent « je ne suis pas heureux » et pof, ils tombent en larmes. Eh bien, plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, soyons heureux de n'être pas malheureux. Et c'est là où on retrouve la sagesse tragique, si vous voulez. Quand je croise cette femme couchée sur le trottoir en plein hiver sous deux couvertures, je ne peux pas être pleinement joyeux ni pleinement satisfait, évidemment, mais ça ne veut pas dire que la joie, pour moi, devienne impossible. Je ne vais pas faire semblant d'être malheureux parce qu'il y a des SDF à Paris, si vous voulez. On le sait bien tous. Ça nous empêche, ça nous interdit la félicité, ça nous interdit la plénitude, ça ne nous interdit pas le bonheur. Et en même temps, vous savez ce que disait Alain, le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Et c'est pourquoi, des fois, les questions sur le bonheur m'agacent un peu. J'ai envie de répondre aux gens, notamment aux journalistes qui m'interrogent. Écoutez, que vous soyez heureux ou pas, c'est votre problème, c'est pas ça qui passionne la planète. Occupez-vous plutôt de ce qui est vraiment important. Et le dérèglement climatique, les SDF, le chômage, l'injustice, la guerre peut-être qui menace ou qui existe déjà en Ukraine. Le bonheur viendra par surcroît, peut-être, et s'il ne viendra pas, eh bien, vous serez mieux à même d'accepter son absence.
Et vous nous raconterez tout à l'heure pourquoi vous défendez plutôt la sagesse tragique, le gai désespoir, plutôt que la poursuite du bonheur. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, quel est le menu de vos questions toujours pertinentes ?
Être heureux ici et maintenant, dans l'action, sans renoncer au passé ou à l'avenir, et en essayant d'espérer un peu moins. Mais vivre au présent pour être heureux, est-ce vraiment si simple, Ali ?
Grand bien vous fasse.
Et le bonheur, alors, c'est quoi ?
Eh ben, le bonheur, c'est... Ben, quand les emmerdes se reposent. Et alors là, il faut faire gaffe de ne pas les réveiller.
Sur France Inter.
Et ce matin, le bonheur, la sagesse tragique, la mort, selon André Comte-Sponville, qui publie au PUF l'opportunité de vivre, ultimes études. Je vous propose d'écouter Vanessa Paradis dans le film La fille sur le pont de Patrice Lecomte.
Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol.
Comment vous voyez votre avenir, Adèle ?
Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains ou des taxis, ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, j'attends.
Mais vous attendez quoi, Adèle ?
Il m'arrive quelque chose.
André Comte-Sponville, que vous évoque ce monologue de Vanessa Paradis dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte ?
Je ne connaissais pas ce texte, si j'ose dire. Bah oui, une partie de la vie se passe à attendre, notamment à attendre le bonheur. C'est la grande formule de Pascal que j'ai citée si souvent. Ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Et bien sûr, le pari philosophique, c'est au lieu d'attendre le bonheur, essayer de le vivre à présent. Mais ça suppose en effet quelque chose, alors ce que j'ai appelé moi le désespoir, on pourrait prendre un autre mot. Mais j'ai pris ce mot pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a bien quelque chose de désespérant dans la condition humaine. D'abord, c'est quoi mourir ? Nos enfants mourront, si tout le monde mourra, l'humanité sans doute disparaîtra un jour ou l'autre. Et puis, au-delà même de la mort, il y a la solitude, il y a la souffrance. Comme disait Romain Gary, la vie est une guerre qu'on ne peut pas gagner. Ça, c'est le tragique initial, ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine. La deuxième chose, c'est qu'inversement, espérer, c'est toujours désirer quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui n'existe pas. Par différence avec la volonté, qui consiste à désirer quelque chose qui dépend de nous et donc à le faire. Parce que vouloir, c'est agir ou ce n'est pas vouloir. Et par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est. Mieux vaut désirer ce qui est, c'est-à-dire aimer, que désirer ce qui n'est pas, c'est-à-dire espérer. D'autant plus que, comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc à chaque fois que mon désir, qui est l'essence même de l'être humain, que mon désir porte sur quelque chose qui ne dépend pas de moi, c'est un espoir plutôt qu'une volonté ou une action. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, je vis dans la trouille. Et à chaque fois que je désire ce qui n'est pas, c'est un espoir, donc une crainte, par différence avec l'amour qui consiste à désirer ce qui est. Et donc, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, ce qui est impossible. Puisqu'il n'y a pas de crainte sans espoir. Dès lors que je suis plein de peur, je suis plein d'espoir aussi. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Il s'agit, comme ça a été rappelé à l'instant, d'espérer un peu moins, et surtout d'agir, de connaître et d'aimer un peu plus. C'est ça le pari philosophique. Alors j'ai appelé ça le gai des espoirs, pas par goût du paradoxe, mais aussi parce que j'avais le sentiment que moins j'espérais, au fond, plus j'étais joyeux. Et qu'à l'inverse, mes moments de plus grands espoirs étaient mes moments de plus grande peur, et donc de plus grande souffrance. Alors, l'exemple biographique, c'est que moi j'ai perdu, nous avons perdu, mon ex-femme et moi, notre premier enfant, une petite fille qui est morte à 6 semaines. Quand les médecins nous apprennent qu'elle souffre d'une méningite foudroyante, comme tous les parents, on espérait follement qu'elle guérisse. J'avais de toute ma vie, je n'avais jamais rien espéré aussi fort. C'était de très très loin, mon moment de plus grand espoir depuis ma naissance. Et je n'avais jamais été aussi malheureux de ma vie. Parce que j'étais mort de trouille, simplement. Et tous les parents qui ont veillé leur enfant mourant ou gravement malade ont vécu ça. Il n'y a pas d'espoir sans crainte. Le plus grand espoir, c'est la plus grande peur, c'est le plus grand malheur. Alors qu'à l'inverse, les moments les plus sereins, les plus heureux de ma vie, souvent très simples, une promenade en forêt avec un ami, la découverte d'une musique de Mozart, la lumière sur Paris ce matin, tout d'un coup, la joie est là. Et parce que vous n'espérez rien. Quand on est face au beau, face au bien, face au vrai, il n'y a plus rien à espérer. Il suffit de connaître et d'aimer. Et donc voilà, mon sentiment, c'est que plus il y avait d'espoir, plus il y avait de peur, plus il y avait de malheur. Et qu'inversement, plus il y avait d'action, de connaissance et d'amour, moins il y avait lieu d'espérer.
Et dans le même temps, vous acceptez pleinement cette phrase de l'écrivain américain Scott Fitzgerald, « La vie est bien sûr un processus de démolition ». Ça, vous l'acceptez pleinement.
C'est un peu réducteur. La vie finit mal. Hein. C'est la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général.
Rita Mitsouko.
La vie aussi. Les biographies finissent mal parce qu'elles finissent. Mais parler de démolition, c'est oublier l'autre aspect. La vie, c'est aussi une construction. Et la construction est quand même plus intéressante et plus importante que la démolition. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment d'être humainement plus riche aujourd'hui que quand j'avais 5 ou 6 ans, si vous voulez. Et donc, ça, c'est pas la démolition, c'est de la maturation, c'est de la construction. Mais je sais bien qu'au bout du compte, je n'en mourrai pas moins, évidemment. Et là encore, le tragique, c'est le contraire du nihilisme. Parce que pour qu'il y ait tragique, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait de la valeur et qui va disparaître. Voilà. Le nihilisme qui vous dit « rien ne vaut », rien n'est tragique, puisque ce qu'on va perdre la vie est sans valeur. Et donc, l'amour de la vie et le sentiment du tragique vont ensemble. C'est parce que la vie est belle, précieuse, parfois délectable, parfois douloureuse, mais toujours belle et précieuse, qu'il est tragique de la perdre. Et donc, voilà, le tragique, c'est le contraire du nihilisme. Le nihilisme, c'est le contraire du tragique. Plus on aime la vie, plus il est douloureux de savoir qu'on va la perdre.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, André Comte-Sponville, dans une récente enquête du think tank Destin Commun, vous avez rappelé ce chiffre tout à l'heure, on apprend que 8 Français sur 10 se déclarent heureux, alors qu'ils sont également 8 sur 10 à estimer que notre pays va dans la mauvaise direction, une sorte de paradoxe français, où on aurait d'un côté un bonheur privé et un malheur public. Alors, ce qui a été résumé comme étant cette société du cocon, où on va trouver finalement ce bonheur dans ses proches, dans ses relations amicales, dans ce que l'on connaît. Évidemment, on ne maîtrise pas tout ce qui peut nous échapper. Et cette forme de cocon peut aussi concourir à une espèce d'isolement. On va se replier sur soi, on va à nouveau rester entre soi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cercle vicieux ou peut-être de paradoxe à nouveau entre ce cocon et cet isolement ?
Oui, il y a un paradoxe. Alors, en même temps, soyons honnêtes et lucides, il va de soi que la santé de mes enfants importe plus à mon bonheur que la santé de vos enfants. Autrement dit, l'égoïsme fait aussi partie de la condition humaine. Il suffit qu'un de mes enfants soit gravement malade pour que je ne puisse plus être heureux. Là, pour le coup, la joie devient impossible parce que je suis déchiré d'angoisse, si vous voulez. Ce n'est pas le cas en ce moment. Je m'en réjouis, mais je l'ai vécu, ça aussi. Alors qu'inversement, qu'il y a du malheur dans le monde et du malheur en France, ça ne m'empêche pas, moi, d'être heureux. Ça empêche la félicité, ça empêche la plénitude, ça n'empêche pas que la joie soit possible, ça n'empêche pas le bonheur. Donc il faut accepter ce qu'il y a de relatif égoïsme dans la condition humaine, et en même temps, il faut bien voir que c'est un piège, parce que là aussi, sur le bonheur, on dit souvent le bonheur n'est pas dans l'avoir, on a bien sûr raison. Mais ça ne veut pas dire que le bonheur soit dans l'être, comme le prétendent certains gourous ou prétendus maîtres spirituels. Moi, ce que je dis, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire, dans l'agir. Le seul vrai bonheur, c'est le bonheur en acte. Le vrai bonheur, c'est le bonheur d'agir, si possible avec d'autres. Et donc le bonheur est dans l'action et la relation. Et si on s'enferme dans ce petit cocon, comme vous disiez, il y aura moins d'action, moins de relations. La vie de famille est une grande chose, l'amour des enfants, l'amour du conjoint, ce sont de grandes choses, mais c'est un peu restrictif par rapport à notre destin d'humain, si vous voulez. Et donc, moi, je crois au contraire qu'il faut réconcilier les Français avec l'action. Et plutôt que de les voir pester en permanence contre leur politique, ce qui fait partie des sports nationaux, moi, j'aimerais qu'ils fassent davantage de politique et qu'ils voient à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile.
Dans l'opportunité de vivre, vous consacrez quelques pages à l'impermanence selon votre cher Montaigne. L'idéal de Montaigne, c'est non pas vivre dans l'instant, mais vivre dans un présent qui dure et change, qui est le présent même. Et pour Montaigne, je le cite, « aller toujours béant après les choses futures, au lieu de nous saisir des biens présents, c'est la plus commune des humaines erreurs. » Et pour Montaigne, il s'agit, je le cite toujours, de ménager le temps plutôt que de le passer, donc de profiter du présent plutôt que de rester l'esclave de l'avenir.
Oui, il s'agit de vivre au présent. Chacun sait bien qu'il vaut mieux vivre au présent que vivre dans le passé ou dans l'avenir. Mais c'est facile à dire, c'est plus compliqué que ça à faire. D'ailleurs, Montaigne lui-même constate que tous nous sommes portés, comme disait Blaise Pascal, à espérer le bonheur plutôt qu'à le vivre. Mais alors, si j'appelais ce livre « L'opportunité de vivre », alors c'est un peu un clin d'œil, et pour rectifier le titre du premier article, l'opportunité de mourir, qui porte donc sur le suicide chez les stoïciens et les épicuriens, la vraie question, c'est pas le suicide, la vraie question, c'est la vie. Alors, moi, je crois que si on aime la vie, si on aime la liberté, on doit pouvoir être maître de sa vie et que donc on a le droit d'y mettre fin si on le décide. À condition que ce soit pour de bonnes raisons, pas parce qu'on souffre d'une dépression mal soignée. Il faut distinguer la dépression qui n'est qu'une prison de plus et la liberté de décider d'en finir qui est une liberté. Comme disait Épictète, la porte est ouverte, on a le droit de s'en aller. Mais l'important, l'essentiel, c'est bien sûr pas l'opportunité de mourir, l'essentiel c'est l'opportunité de vivre. Or, qu'est-ce que ça signifie opportun? Eh bien, dans son grand dictionnaire, Littré écrit « opportun, deux points, ce qui vient à propos ». Et bien sûr, ça me fait penser à la célèbre formule de Montaigne, « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos ». De vivre à propos, c'est-à-dire en fonction des circonstances, en s'adaptant au cours changeant des choses, des saisons, des événements. Bref, pour Montaigne, la sagesse, ce n'est pas un bonheur inexpugnable. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une forteresse comme le fantasmait Lucrèce, en bon épicurien qu'il était. Il s'agit au contraire de prendre plutôt modèle sur le vent. Plus sage que nous, comme dit Montaigne, qui s'aime à bruire et à s'agiter sans chercher la constante, la solidité, qualité non sienne. Voilà. Et bien, cette sagesse du vent, c'est l'opportunité de vivre, c'est accepter la vie dans sa fragilité, dans son impermanence.
Et le contre-modèle à suivre, c'est celui des affairés. Pour parler comme Sénèque, ces affairés qui ont, je cite Sénèque, l'âme toujours penchée vers l'avenir, qui se donnent tout entier à espoir, qui ne vivent pas, mais se préparent à vivre, ceux qui édifient leur vie aux dépens de la vie.
C'est ça, ils ne vivent pas, ils se disposent à vivre, comme dit Sénèque. Ça, c'est vivre au futur. Alors qu'il s'agit de vivre au présent. Mais attention, vivre au présent, en vérité, ce n'est pas un idéal. C'est la vérité de vivre. Je vous mets au défi de vivre la minute qui viendra dans une minute. C'est impossible. Et donc, s'il faut comprendre, c'est que le présent est la seule chose qui nous soit offerte, le seul temps que nous puissions vivre, et que dès lors, il est dommage de s'en séparer par des regrets, des nostalgies portant sur le passé ou par des espoirs et des craintes portant sur l'avenir. Vous voyez, et donc, vivre au présent, ce n'est pas un mot d'ordre, c'est purement et simplement la vérité de vivre. Simplement, cette vérité, il faut l'intégrer, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit tout souvenir ou toute anticipation. Si nous sommes ensemble, vous et moi, c'est qu'on a pris rendez-vous il y a plusieurs jours, c'était un projet. Et si je suis venu, c'est que je me suis souvenu de ce projet. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de vivre dans l'instant, un peu à la façon de la chèvre, comme disait Nietzsche, attachée au piquet de l'instant. Non, je ne suis pas une chèvre, je suis un être humain. Et donc, vivre au présent, c'est habiter dans la totalité du temps qui m'est donné, qui est toujours présent, mais qui inclut le souvenir présent du passé, qui inclut l'anticipation présente de l'avenir. Mais tout ça, c'est le présent, simplement, c'est un présent humain.
Alors, toujours dans l'opportunité de vivre, vous évoquez la sagesse tragique, chère au philosophe français Marcel Conche. Sagesse tragique, un apparent oxymore. D'abord, tragique, à ne pas confondre avec la mélancolie, le malheur ou le pessimisme.
Oui, et encore moins avec le pessimisme. Donc oui, tragique, je le rappelais à l'instant, la notion vient de Nietzsche d'abord. Donc, la sensibilité tragique, la sagesse tragique, c'est prendre le réel tel qu'il est, dans ses contrastes. Le bien, le mal, la joie, la tristesse, le bonheur, le malheur, etc. Et Marcel Conche reprend cette définition à Nietzsche. Sauf que Marcel Conche ajoute quelque chose qui est important. Le tragique, c'est donner le plus de valeur à ce qui va mourir. Et c'est justement parce qu'on aime la vie qu'il est tragique de la perdre. Et là, contre l'espèce d'allégresse nietzschéenne qui faisait dire à Clément Rosset ou à Gilles Deleuze, deux nietzschéens de grand talent par ailleurs, mais que la joie est le sentiment tragique par excellence. Oui, je vois bien ce qu'ils veulent dire. Et c'est vrai que cette joie tragique, il m'arrive de la ressentir quand on n'espère plus rien, quand on prend le réel dans son entier. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait du chagrin? Qu'est-ce qu'on fait de la tristesse? Qu'est-ce qu'on fait de l'ennui, de la mélancolie? Il faut aussi assumer ces dimensions de l'existence. Si on aime le réel dans son entier, il faut aussi accepter ce poids de tristesse, d'ennui, de fatigue, de solitude, etc. Et je trouve que de ce point de vue, la conception du tragique chez Marcel Conche, le tragique, c'est savoir que ce qui est le plus précieux, la vie, les êtres que nous aimons, ça va périr, ça me parle davantage. Et puis, il y a autre chose, c'est le tragique et la morale. C'est que Marcel Camps, qui est un philosophe de la morale, il voit bien que le réel n'est pas moral. Hein. Il y a des salauds bien plus heureux que des gens qui sont formidables et qui sont malheureux. C'est aussi bête que ça. La nature n'est pas morale, la vie n'est pas morale. C'est pourquoi nous avons à l'être. Oui, mais du même coup, on comprend bien qu'il n'y a pas d'adéquation entre le degré de moralité, de vertu, disons, et le degré de bonheur. Il y a des salauds plus heureux que des héros malheureux. Et ce n'est pas une raison pour renoncer au bien, ce n'est pas une raison pour se vautrer dans le mal. Et ça aussi, ça fait partie du tragique. Alors que chez Nietzsche, qui prétend récuser toute morale, s'il n'y a plus de morale, effectivement, qu'un salaud soit plus heureux qu'un tibien, ce n'est pas un problème, puisque à la limite, le salaud est plus lucide que le tibien qui se fait des illusions. Eh bien, moi, je ne suis pas nietzschien, je pense que de ce point de vue, c'est Marcel Camps qui a raison. La morale n'annule en rien le tragique, mais elle crée une espèce de tragique supplémentaire.
Si vous n'avez jamais lu Marcel Camps, une bonne introduction, c'est Épicure en Corrèze, publié au PUF, il me semble, mais je vais vérifier parce que je cite de mémoire. Pourquoi la sagesse vous importe plus que le bonheur, André Comte-Sponville ?
Mais parce que la sagesse, encore une fois, ça serait le bonheur dans la vérité. Comme c'est la vérité qui m'importe avant tout, je le disais, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Voilà, le seul bonheur qui m'importe, celui que je cherche, celui qui m'arrive de vivre, c'est un bonheur lucide. Autrement dit, il ne s'agit pas de se raconter des histoires, de se consoler à bon compte. Sinon, c'est la méthode Coué. Vous pouvez tous les matins vous dire devant la glace, je suis un type formidable, chaque jour, je vis de mieux en mieux. Non, c'est pas de la philosophie, c'est de la méthode Coué. Et donc, que la philosophie cherche le bonheur, oui, parce que toute activité humaine, presque par définition, cherche le bonheur. Mais ce qu'il y a de singulièrement philosophique, c'est chercher le bonheur dans la vérité, dans un peu plus de vérité, dans la lucidité. Et d'ailleurs, je dois dire que les gens que j'apprécie, mes amis, ceux que j'aime le plus, c'est pas parce qu'ils sont plus heureux que les autres, pas du tout. C'est parce qu'ils sont évidemment plus intelligents, encore plus lucides, plus tendres, plus aimants, plus drôles. Ça, c'est des vraies vertus humaines. Mais l'idée d'aimer quelqu'un davantage parce qu'il est plus heureux qu'un autre, ça m'a jamais traversé la tête. Alors, je suis très content quand mes amis sont heureux, mais encore une fois, ce n'est pas le degré de bonheur d'un individu qui, pour moi, définit sa valeur d'être humain. C'est bien plus son degré d'intelligence, de lucidité, de générosité, d'amour, de courage. Voilà les grandes vertus humaines.
Ma mémoire me joue des tours, Épicure en Corrèze de Marcel Camps, c'est publié chez Stock. 10h39, eh bien, il est déjà l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Faites vous-même votre malheur. En finir avec le bonheur. Soyez négatif. Le piège du bonheur. Je les ai tous. Dans ma bibliothèque, au milieu des nombreux ouvrages sur l'art du bonheur, sa psychologie, sa philosophie, son histoire, j'ai un rayon entier des livres contre, nous expliquant que le bonheur est une illusion, un commerce, une catastrophe. Et je les ai tous lus attentivement pour comprendre. Bon, je vois bien ce qu'ils professent. En gros, c'est le message « trop de bonheur tue le bonheur » ou plus précisément « trop de quête du bonheur tue le sentiment du bonheur ». Bon, ce genre de message s'applique d'ailleurs à tout, l'amour, les impôts, les éclairs au chocolat. Mais pour le psychiatre que je suis, spécialiste des maladies qui rendent les gens malheureux, ils sont bien loin de me convaincre, ces bouquins. Quand je voyais dans la salle d'attente de notre service à l'hôpital Sainte-Anne tous les visages endoloris de nos pauvres patients inaptes au bonheur, penser au livre intitulé « Soyez négatif » me faisait doucement rigoler. Sur ce débat, voici ce que pense notre invité, le philosophe André Comte-Sponville. Je le cite. « Le bonheur est un état subjectif, relatif, dont on peut pour cela contester jusqu'à l'existence. Mais qui a connu le malheur n'a plus de ses naïvetés. Et c'est, au moins par différence, que le bonheur aussi existe. » Critiquer le bonheur, c'est le plaisir des nantis, des aigris, des petits malins. Pour ma part, plutôt que le fuir ou le moquer, ce qui m'intéresse, c'est le faire naître en nous. La vie est dure, et sans le bonheur, elle devient à mes yeux insupportable. Problème, le bonheur est comme le sommeil et la plupart de nos états émotionnels. C'est un phénomène émergent, dont nous ne pouvons déclencher l'apparition sur commande, mais dont nous pouvons seulement créer les conditions qui vont favoriser son émergence. Un des hommes les moins aptes au bonheur que j'ai connu avait sa recette à lui. Le dimanche matin, il écoutait à plein tube des 33 tours de musique sacrée, interprétés par un médecin clarinettiste alors célèbre, qui s'appelait Jean-Christian Michel. Cet homme malheureux, c'était mon père. Lui qui était un prolétaire, athée, sans aucune culture musicale, il tentait alors de s'offrir dans ses instants de spiritualité une petite bouffée de bonheur. Et à part la musique de Bach, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, au moins pour un moment ? Bah, ce serait évidemment trop long à détailler ici, et les chemins vers le bonheur sont bien sûr nombreux, mais voici celui qui me semble le plus accessible. S'efforcer d'être heureux quand tout va bien. C'est d'ailleurs le programme d'André Comte-Sponville. C'est un programme plus ambitieux qu'il n'y paraît. Se réjouir de la vie ordinaire, sans adversité majeure, sans ruine, sans deuil, sans violence, sans guerre ni bombardement, et prendre conscience que cette vie ordinaire est une source illimitée de bonheur simple. Voir, entendre, marcher, manger, vivre en démocratie, prendre une douche chaude, rire avec des amis, lire un bon livre, consoler un proche, écouter les oiseaux, admirer le ciel bleu. Le bonheur, c'est de vivre. J'ajoute, car j'entends déjà les critiques, j'ajoute que cette recherche tranquille du bonheur ne nous empêche pas de poursuivre par ailleurs d'autres buts dans notre vie, de nous battre pour nos idéaux, d'aider nos prochains, etc. Allez, il est temps de conclure. Le bonheur est dérisoire. Il n'empêche ni la souffrance, ni la mort. C'est vrai. Le bonheur est précieux. Il aide à affronter la souffrance et la mort. C'est vrai aussi. Alors, je vous laisse choisir entre ces deux vérités. De mon côté, le choix est fait.
André Comte-Sponville ?
Moi, je prends les deux vérités, mais parce que je suis d'une humeur un peu plus sombre que Christophe. Mais les deux m'importent, mais il y en a une qui donne davantage envie de vivre. Et en fait, c'est ça, pour moi, la différence. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le bonheur. En vérité, tout le monde est pour, sauf quelques intellectuels qui n'ont jamais été malheureux. C'est ce que Christophe rappelait à l'instant. Non, la vraie différence, c'est entre les pensées qui donnent envie de vivre, d'agir et de se battre, et les pensées qui donnent envie de se coucher et d'attendre la mort. Et là, mon choix, là pour le coup, je choisis clairement les pensées qui donnent envie de vivre et de se battre. Et c'est une forme de bonheur, l'une des plus belles définitions du bonheur, ou l'une des plus belles évocations du bonheur, sous la plume de Marcel Conche. Marcel écrivait quelque part « Entendant par bonheur ce qui donne un inépuisable courage ». Et c'est un peu le sens aussi de la chronique de Christophe, c'est ça, c'est le bonheur, c'est ce qui nous permet d'aimer la vie malgré sa difficulté, malgré ce qu'elle a en effet de dérisoire, c'est vrai aussi, tout ce qui donne envie de vivre et de se battre.
Tous les épisodes des choses vues de Christophe André sont à retrouver sur l'appli Radio France, sans oublier les vidéos de Christophe sur les réseaux sociaux de France Inter.
France Inter.
Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas, faut que ça vous arrive pour comprendre.
Grand bien vous fasse.
Ma mère a dit souvent... Si on était toujours heureux, ce serait le bonheur.
Ali Rebbi.
André Comte-Sponville, notre invité ce matin. On vient d'écouter Lucid Girl, fille lucide. Êtes-vous un lucid boy, André Comte-Sponville, un garçon lucide ? D'ailleurs, votre définition de la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité.
Voilà, donc j'essaye d'être un lucid boy, mais j'avoue honnêtement que je suis plus doué pour la lucidité que pour le bonheur. Ça m'arrive d'être heureux, et en vérité, en ce moment, je le suis, puisque je ne suis pas malheureux, tant s'en faut, vous voyez. Mais voilà, j'ai un rapport assez facile à la lucidité, un rapport un peu moins évident au bonheur.
Tiens, écoutons Sioran.
Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici, bas, n'est-ce pas ? Pour moi, l'idée de suicide, c'est toujours lié à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi.
Que pensez-vous de cet apparent paradoxe évoqué par Sioran, l'auteur de L'inconvénient d'être né notamment, l'idée du suicide qui lui a donné la force de vivre?
Oui, bah je comprends ça, parce qu'en effet, la possibilité du suicide, c'est notre marge de liberté. On n'a pas choisi de naître. C'est un choix qu'on n'avait pas. On a le choix, non pas de mourir un jour, on mourra de toute façon. Mais on peut avoir le choix de mourir plus tôt ou éventuellement plus tard. Et donc, là encore, c'est la formule d'Épictète que j'évoquais tout à l'heure, la porte est ouverte. On a le droit de s'en aller. Comme disait Montaigne, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est le droit de s'en aller, le droit de mourir si on le veut. Mais encore une fois, l'essentiel, malgré tout, ce n'est pas dans cette idée du suicide. C'est dans l'amour de la vie. Et c'est là où, quand Sioran, qui a un grand talent par ailleurs, mais intitule l'un de ses livres fameux « De l'inconvénient d'être né », non, moi j'ai envie de dire, mais naître, c'est pas un inconvénient, c'est une chance, c'est une opportunité, pour reprendre le titre de mon livre. Et c'est la condition de toutes les autres. Et donc, ce qui m'agace un peu chez Sioran, encore une fois, dont je ne conteste pas du tout le talent, au moins littéraire, mais ce qui m'agace, c'est cette façon de cracher dans la soupe du réel. Comme s'il fallait absolument nous décourager de vivre. Eh bien non, moi je préfère les penseurs qui me donnent envie de vivre. Ça n'empêche pas d'être lucide, ça n'empêche pas de penser qu'en effet le suicide fait partie des droits de l'homme, mais ce n'est pas non plus la question principale. Quand Camus écrit dans le mythe de Sisyphe « Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide », d'évidence il a tort. Non, c'est un problème philosophique parmi d'autres. Mais la vraie question, ce n'est pas le droit de mourir, c'est le droit de vivre. Et puis, rappelons quand même que le droit de vivre est bien plus difficile à assurer que le droit de mourir. Pour nous autoriser, pour nous accorder le droit de mourir, il suffirait d'une loi au Parlement. J'espère bien qu'elle aura lieu. Mais en plus, elle ne coûterait pas cher dans son application. Le droit de vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Je rappelle qu'il y a 9 millions d'êtres humains qui meurent de faim chaque année dans le monde. 9 millions chaque année, dont 3 millions d'enfants. Alors battons-nous pour le droit de vivre de ces 3 millions d'enfants, de ces 9 millions d'êtres humains, encore plus que pour le droit de mourir. Mais si on aime la liberté, on veut être libre jusqu'au bout. Et donc, la possibilité du suicide fait en effet partie de cette dimension de liberté de la condition humaine.
Que répondez-vous à celles et ceux qui vous disent « Vous choisissez la mort, je choisis la vie ».
Ben, je leur réponds, là encore c'est le sens du titre de mon livre « L'opportunité de vivre », c'est que ce que montrent et les épicuriens et les stoïciens, alors, qui sont deux écoles ennemies dans l'Antiquité, qui se détestent en permanence, qui ne sont d'accord sur rien, sauf sur le suicide. Parce que sur le suicide, et les stoïciens et les épicuriens sont d'accord pour dire que choisir d'en finir ou de continuer à vivre, ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Ça dépend des moments, ça dépend des situations. Bien sûr qu'entre la vie et la mort, les épicuriens comme les stoïciens préfèrent la vie, évidemment. En général, au niveau des principes, mais si à tel ou tel moment, la vie devient atrocement douloureuse, parce que je suis atrocement handicapé, parce que je souffre d'une façon effroyable que les médecins n'arrivent pas à guérir, alors en effet, j'ai le droit de décider d'en finir. Oui. Et donc, voilà, pour moi, il ne s'agit pas d'être pour la mort contre la vie. Tout le monde est pour la vie, en tout cas, moi je suis évidemment pour la vie, mais je suis aussi pour la liberté. Et donc, si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l'être dans certaines circonstances aussi de ma mort. Et c'est pourquoi je me bats depuis des années pour la légalisation et de l'euthanasie et de l'assistance au suicide.
Une question de Sylvie. Vous avez une sorte de détachement par rapport à la mort. Comment avez-vous pu en arriver là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé de manière récente ou que vous portez depuis longtemps?
C'est un peu les deux. Donc, c'est vrai, le mot de détachement, ce n'est pas celui que j'aurais pensé utiliser, mais c'est assez vrai. Je me sens détaché par rapport à la mort. Beaucoup plus aujourd'hui que quand j'avais 20 ou 30 ans, et peut-être moins que demain. Mais c'est normal. Plus je vieillis, moins j'ai peur de la mort.
Vous avez 72 ans aujourd'hui.
J'ai 73 ans très 73. Bientôt. Mais pour une raison très simple, c'est que j'ai de moins en moins à perdre. Mourir à 20 ans, c'est une horreur. Moi, je voulais écrire des livres. L'idée de mourir avant d'avoir écrit les livres que je voulais écrire, ça me paraissait atroce. Mourir à 20 ans, c'est une horreur. Mourir à 40, c'est une grande tristesse. Mourir à 73 ans, c'est quand même beaucoup moins grave, si vous voulez. Et donc, voilà, plus j'ai vécu, moins j'ai à perdre, moins la mort peut me prendre. Au fond, la mort, à l'âge que j'ai, ne peut plus me prendre qu'une partie de ma vieillesse, et sans doute pas la partie la plus intéressante. Et puis, il y a autre chose que disait Georges Brassens dans une chanson, hein, « Quand tu seras mort, tu n'auras plus jamais mal aux dents ». Ou ce qui exprime très bien la jolie formule de Voltaire que je cite en exergue à l'avant-propos de mon livre. Voltaire écrit, Voltaire qui aime la vie passionnément, mais Voltaire écrit, on aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. Eh bien, dis donc, cette formule, dans cette légèreté souriante, dit pour moi quelque chose d'essentiel, et sur Voltaire, bien sûr, mais aussi sur la vie. Et je précise que cette phrase-là, il l'écrit dans une lettre à son amie, la dépressive et charmante marquise Dudéfant.
Madame Dudéfant.
Pour la dissuader de se suicider. Parce que justement, si tu comprends que c'est la vie qui est bonne et qu'au fond, le néant ne laisse pas d'avoir du bon, bah, tu continues à vivre aussi le temps que tu peux, tant que la vie est supportable. Et si un jour elle devient atroce, alors tu as le droit, effectivement, d'y mettre fin.
Vous avez moins peur de mourir à 73 ans en sachant qu'il n'y a rien après la vie, selon votre conviction personnelle.
Oui, moi je suis athée, donc je pense qu'après la mort, c'est le néant. Et que donc avoir peur de la mort, pour l'athée que je suis, c'est avoir peur de rien. Et bien sûr, avoir peur de rien, c'est idiot. En même temps, Christophe pourrait me dire, à juste titre, qu'avoir peur de rien, c'est aussi une définition de l'angoisse. C'est non pas la peur de quelque chose, mais l'appréhension, la crainte du néant. Et je ne promets pas que sur mon lit de mort, je ne serai pas angoissé. Mais enfin, c'est quand même très normal quand on meurt d'être angoissé, si vous voulez. Et donc, tout ce que j'espère sur mon lit de mort, c'est d'avoir la sérénité d'accepter sereinement de n'être pas serein, d'accepter sereinement d'être angoissé. Et puis les médecins nous mettront volontiers sous anxiolytiques. Il faudrait se renseigner d'ailleurs quel est le pourcentage de mourants qui meurent dans nos hôpitaux avec anxiolytique et qui meurt sans anxiolytique. Mais en un sens, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que l'angoisse a aussi une dimension pathologique. Et si nos médecins peuvent guérir, soigner, apaiser ces dimensions pathologiques, on aurait bien tort de le leur reprocher. Voilà, donc actuellement, je suis en bonne santé, je m'en réjouis, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible tant que je reste en bonne santé. La mort ne me fait pas peur du tout, je me sens détaché par rapport à la certitude de ma mort et de son rapprochement, évidemment, constant, par définition. Ça ne veut pas dire que sur mon lit de mort, je serai pleinement serein. Mais au fond, je ne vais pas m'angoisser maintenant de savoir quel sera mon état psychologique quand je serai en train de mourir. Et puis rappelons que l'angoisse fait aussi partie de la condition humaine et spécialement de la condition des mourants.
Que diriez-vous, pour terminer cette émission, André Comte-Sponville, à un nouveau-né de 2025, qu'est-ce que vous lui chuchoteriez au creux de l'oreille s'il avait la possibilité de comprendre ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui diriez à un nouveau-né d'aujourd'hui?
Écoutez, la formule qui me vient, elle était dans la bouche de quelqu'un qu'on n'ose plus citer, pour de très bonnes raisons en l'occurrence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a dit que des bêtises, c'est l'abbé Pierre. Un jour, c'est une émission, je crois, de Christine Ockrent qui s'appelait « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?» Et un jour, dans cette émission, invitant l'abbé Pierre, Christine Ockrent lui demande « Mon père, que diriez-vous au jeune homme que vous étiez quand vous aviez 20 ans ?» Et l'abbé Pierre, apparemment un peu désarçonné par cette question, réfléchit quelques secondes et puis répond de sa voix déjà très fatiguée, il répond « Je lui dirais deux choses. La première, c'est que rien n'est facile. La seconde, c'est que tout vaut la peine. » Et je trouvais ça émouvant dans la bouche de l'abbé Pierre, sachant à l'époque ce qu'on savait de la vie de l'abbé Pierre. Et ce qu'on a appris depuis, qui bien sûr me désole, m'afflige comme tout le monde, n'annule pas malgré tout la justesse de ces paroles.
Merci beaucoup André Comte-Sponville. Je recommande la lecture de L'opportunité de vivre, publiée au PUF Ultimes Études. Pourquoi Ultimes Études, tiens d'ailleurs?
Parce que ce que j'appelle études, c'est des articles d'histoire de la philosophie, un peu technique, un peu exigeant.
Pourquoi Ultimes?
Et ça, j'ai décidé d'en finir. Ça ne veut pas dire que j'arrête d'écrire, ça ne veut pas dire ultimes écrits, mais ultimes études, c'est-à-dire ultimes articles d'histoire de la philosophie.
Merci beaucoup André Comte-Sponville, merci Marie-Laure Sonnenschein et Christophe André. Demain, une sélection de livres jeunesse pour les vacances et on se demandera comment parler d'amour aux enfants à travers la littérature de jeunesse.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.